Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Sur Mon Paris FM, deuxième entretien de la journée avec Yasmina Benbeka, une pionnière de la culture hip-hop depuis plus de 20 ans. Elle en explore toutes les disciplines du rap à la danse en passant par le graph et bien entendu le DJing, sa toute première spécialité. Bienvenue Yasmina, comment ça va?
Bonjour, bienvenue, merci. J'allais dire bienvenue, mais non.
Parce que bah, je suis content. Alors, vous avez l'habitude d'être de l'autre côté
était,
du micro.
On n'a pas dit où on était. Hein,
on est dans un stade. On est au stade Louis Lumière ici, là, dans le 20e arrondissement. Et c'est vrai qu'on est sur la pelouse et il fait extrêmement froid.
Voilà, c'est ça. C'est donc, vous êtes courageux, les gars, vraiment, bravo. D'avoir installé cette radio dans un courant d'air. Et ça me fait plaisir d'être là.
Plaisir partagé. Mais c'est vrai qu'aussi vous avez l'habitude d'être de l'autre côté du micro.
Absolument.
C'est ce que vous nous disiez. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus, Yasmina?
Ah oui, bon, alors moi je suis journaliste experte hip-hop. Ça veut dire que vraiment depuis plus de 20 ans, c'est ma passion. Depuis presque toujours en fait. Donc dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et j'en ai fait mon métier puisque c'est ma passion et que du coup j'ai développé des chroniques, des interviews, des émissions, dans des radios comme France Inter, Move, même Génération aussi, pendant 8 ans où j'avais une émission sur les DJ, tu parlais de DJing tout à l'heure, qui était effectivement mon expertise toute première, même si ça c'était le hip-hop, la famille, mais dedans vraiment j'étais fascinée par tout ce qui se passait derrière les platines, notamment les championnats de DJ, quand on utilise en fait les platines comme instrument de musique. Le turntablisme, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc toutes les compétitions de DJ, etc. Donc j'en ai fait un livre qui s'appelle « Le Dico des DJ ». Et j'avais une émission et aussi une rubrique dans un magazine qui s'appelait « Radical ». Radical qui est le magazine de la culture hip-hop pendant 10 ans. Et donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai développé. Et ensuite à la radio, France Inter et Move. Move pendant 8 ans où j'avais une émission par exemple sur le rap francophone. J'avais aussi des chroniques culture hip-hop. Je faisais des directs comme vous aujourd'hui d'événements comme le Juste Debout ou des festivals comme le Demi-Festival à 7. Donc oui, la radio c'est mon média préféré.
Et
voilà, et le hip-hop mon expertise. Donc c'est comme ça qu'on dit.
Et comment vous êtes tombé là-dedans? Est-ce qu'on peut revenir déjà sur votre enfance? Vous étiez passionné par quoi? Comment elle se passe? Où elle se déroule?
Alors mon enfance se déroule dans le 91 à Viry-Châtillon où il n'y avait à l'époque pas beaucoup de hip-hop. Et en revanche, après le bac, j'ai voulu faire du droit. Il y avait de la place à Saint-Denis, à la fac de Saint-Denis, Paris 8. Donc je suis arrivée à Paris 8 et là vraiment j'ai découvert le hip-hop parce qu'il y avait une population pour ça qu'il n'y avait pas forcément dans le 91 à l'époque. Et donc j'ai découvert le graffiti, le rap, le DJing donc, la danse. Et j'avais un ami qui s'appelait Jean-Pierre Sec avec qui j'ai fait mes études qui me propose de faire une émission qui s'appelle Sans d'encre dans un hôpital. Et cet hôpital se situait à Ivry-sur-Seine, donc je l'accompagne parce que bon, quand on est étudiant on a un peu que ça à faire. Et on se retrouve dans un hôpital qui était tenu par un monsieur qui avait envie de créer une web radio comme celle-là pour les vieux, les vieilles personnes. C'était un hôpital de gériatrie. Donc il ouvrait le micro aux personnes âgées la journée et il avait décidé d'ouvrir le micro le soir aux jeunes. Et donc avec Jean-Pierre Sec et David Comélias, on a créé une émission qui s'appelle Sans d'encre où on recevait, donc c'est le premier talk show en France, où on recevait des artistes rap, DJ, danse, etc. Donc les premières interviews du 113 par exemple et plein d'autres.
Du coup, vous, la vocation, c'était pas du tout journaliste ou...
Non, je faisais du droit et allais à la fac et je travaillais avec des enfants handicapés mentaux à Levallois. Et comme j'étais passionnée par la culture hip-hop, c'est la culture hip-hop qui m'a amenée au journalisme.
Et ça représente quoi pour vous la culture hip-hop? C'est quoi le hip-hop déjà? Parce qu'on peut le définir par plusieurs manières, le hip-hop. Comment Yasmina, elle définit le hip-hop?
Ah non, il faudrait pas définir de plusieurs manières. Le hip-hop, c'est simple, c'est une culture. C'est une culture qui réunit plusieurs disciplines à l'intérieur. Donc le MCing, donc le rap, le DJing, le DJ, la danse, le breaking, mais aussi la danse debout. Il y a aussi le graffiti, mais aussi le street art maintenant. Il y a le beatbox, il y a la production musicale, il s'en passe des choses dans la culture. Et tout ça, c'est sous la même culture. Et cette culture, elle se définit surtout par le partage et l'envie de faire des choses, alors qu'on n'avait pas la parole à l'époque. Et c'est vrai qu'on ne l'a parfois pas toujours. C'est pour ça qu'on crée, comme vous, une web radio. Ça, pour moi, c'est hip-hop. Qu'on crée des événements comme aujourd'hui, où on va rencontrer le breaking, mais aussi le basket 3-3, mais aussi le cécifoot, etc. Donc tout ce qui est faire des choses en partage, en communauté, pour le bien de la communauté, pour le bien des jeunes, la transmission aussi, c'est très important. Le fait que toi, tu sois en apprentissage derrière le micro, ça fait partie aussi.
Vous mettez tout ça dans la culture hip-hop.
Je mets tout ça dans la culture hip-hop.
Mais vous savez que c'est pas la définition de tout le monde, donc c'est pour ça que c'est intéressant.
Alors la définition de qui, par exemple
Par exemple, être derrière un micro, quand on demande à quelqu'un d'autre, est-ce que être derrière un micro, c'est de la culture hip-hop? Non, c'est pour ça aussi c'est intéressant d'avoir vous votre
vision. Alors je dis pas que c'est une discipline de la culture hip-hop.
Non, mais ça fait partie du...
De transmettre, de faire des choses, de se dire, bah tiens, moi je veux faire du micro, je vais pas faire des écoles à 9000 euros par an, donc je vais me débrouiller via d'autres... En fait, c'est la débrouille. C'est l'échange, le partage, c'est des valeurs aussi, des valeurs, par exemple, dans la culture hip-hop, on regarde pas la couleur, on regarde pas la taille, on regarde pas handicap, pas handicap, on regarde pas femme ou homme, tout le monde est accueilli, et à partir du moment où on veut faire des choses pour le bien de la communauté, pour le bien de cette culture. Donc écrire des livres, c'est pas hip-hop, écrire un livre, tout le monde peut écrire un livre. Mais le fait d'écrire un livre pour raconter, par exemple, quelque chose autour de la culture et d'y mettre la volonté de raconter l'histoire, par exemple, de quelqu'un, pour moi, c'est hip-hop. Après, effectivement, ce n'est pas la définition de base, puisque la définition de base, c'est DJing.
Et c'est ce qui est, moi, je trouve super intéressant dans votre définition, c'est un peu ce que vous dites, le partage. Et... vous êtes aussi commentatrice de breakdance.
Oui, oui.
Il y a le breakdance qui va faire son apparition pour la première fois aux Jeux Olympiques cet été. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Bah, pour moi, l'opportunité, ça aussi, c'est hip-hop, l'opportunité de raconter l'histoire du breaking. Et surtout, avant, jamais aucun battle n'était diffusé dans une chaîne de télé. Donc, il a fallu inventer le poste commentateur. Donc, comment on raconte au grand public ce qu'est un battle hip-hop, pourquoi il y a de la musique, qu'est-ce qu'ils font quand ils font un passage, comment juge le jury, comment ça marche, quoi, en fait, tout ça. Bah, c'est une opportunité qui n'existe que parce qu'il y a le breaking au JO. C'est-à-dire qu'après le breaking au JO, il n'y aura pas de chaînes de télé qui diffuseront des battles nationaux ou internationaux.
Et vous trouvez ça dommage ?
Non, on existait avant les JO, on existera après. C'était juste une possibilité de faire autrement là pendant 2-3 ans. Maintenant, on continuera, les b-boys continueront à faire des battles, les DJ continueront à faire de la musique pour les b-boys. Non, c'est juste une opportunité. Ça met en lumière, on va dire, cette discipline qui n'était pas du tout grand public. Donc c'est tant mieux pour, par exemple, les professeurs de danse, c'est tant mieux pour les structures, c'est tant mieux aussi pour les jeunes de découvrir cette discipline, pour les parents aussi, de se dire, bah tiens, je verrais bien mon fils faire du b-boying, en tout cas du break. Et c'est bien aussi pour que les chaînes de télé se disent, bah tiens, on a envie de diffuser du break, comment ça marche, et on va faire appel à des gens qui ont l'habitude de le faire.
Et qu'est-ce que ça représente, les Jeux Olympiques, pour vous? Surtout que là, ils seront à Paris, à la maison, à domicile. Mmh. Ça représente quoi à vos yeux?
Alors, pas grand-chose, parce que j'ai jamais regardé les Jeux Olympiques de ma vie. Donc, personnellement, pas grand-chose. En revanche, du coup, j'étais bien obligée de me dire, alors moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'handisport. Enfin, c'est les Jeux Paralympiques, parce que j'ai travaillé avec des enfants handicapés mentaux, parce que là, par exemple, je vais découvrir le cécifoot. Voilà, alors le sport en général, j'en fais pas, je suis assez contre, hein. Ça fait mal. Mais le break, c'est une danse, donc bon, rien à voir. Enfin, en tout cas, c'est au JO, mais moi, je le traite comme une danse.
C'est pas un sport.
Donc, non, c'est pas un sport, c'est une danse. Donc, on va en parler en tant que sport, puisque c'est au JO. Donc tout ce qui est discipline sportive, on va dire, qu'est-ce qu'il y a de sport dans la danse? Donc il faut tirer la ficelle, sport dans cette danse. Donc ça, c'est intéressant de le faire en tant que journaliste, je trouve, parce que c'est un autre wording, on va dire. Mais ce qui m'intéresse surtout dans les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Para. Ouais.
c'est tout ce qui se passe au niveau paralympique. Est-ce que vous ne trouvez pas justement d'ailleurs qu'il y a... Ça fait peut-être un peu contre nature de dire ça alors qu'on est sur la promotion des Jeux, mais est-ce que vous ne trouvez pas que les Jeux Olympiques ils sont un peu plus promus que les Jeux Paralympiques?
Oui.
Parce qu'on n'en fait pas assez autour
du
Paralympique.
Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, de toute façon, ça a moins de d'années d'existence, ça attire moins les gens.
Ça a moins de résonance.
Il y a aussi, je pense, quelque chose un peu de rejet quand on voit quelqu'un d'handicapé. Je l'ai vu moi avec dans mon travail. Il y avait ceux qui ne voulaient pas s'approcher des enfants avec lesquels je travaillais, et puis ceux qui étaient intéressés. Donc les paras, c'est pareil, les paralympiques, ceux qui sont intéressés, puis ceux qui n'ont pas l'envie, qui sont gênés face à quelqu'un qui a un handicap, ou qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, qui est aveugle ou qui a un handicap mental. Donc du coup c'est... Je comprends aussi ça, parce que je l'ai vécu, donc du coup, oui, c'est pour ça que c'est moins fédérateur, on va dire. Le sport, tout le monde aime le sport, a priori, bon, bah, sauf moi, hein, bien sûr, mais tout le monde a regardé le sport, on va dire, la performance sportive. La performance sportive d'une personne handicapée, c'est encore autre chose.
Et s'il y a des personnes porteurs de handicap qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent faire du breakdance?
Bien sûr. Justement, il y a des personnes handicapées dans le break. Moi, j'ai toujours vu des personnes handicapées dans le break. J'ai toujours vu, ça veut dire depuis les années 90. C'est pas depuis avant-hier. Tout le monde est accepté, comme j'ai dit tout à l'heure. On a un danseur qui s'appelle Hyper, qui vient d'Algérie, qui a fait énormément d'opérations en France pour rétablir ses jambes. Il est avec des béquilles, et c'est un mec qui a fait, un danseur qui a fait l'émission d'M6 Incroyable Talent, qui a eu un buzzer. Enfin, je veux dire, dans le hip-hop, on a, on fait pas attention à, fait, à handicap, femme, homme, gros, fin. Voilà, c'est toute la différence, en fait.
Et est-ce que justement, bah, c'est pas dommage du coup de mettre cette, enfin le break, c'est pas dommage de le mettre dans une discipline Jeux Olympiques, alors qu'en vérité, elle aurait autant sa place olympique que paralympique. Enfin,
oui,
tout le monde pourrait y participer.
Tout à fait. Est-ce... Mais tous les sports pourraient être en para. Est-ce que tous les sports sont en para? Je ne crois pas. Donc là, la question s'est pas posée pour la Fédération Française de Danse quand elle a pris le breaking sous son aile. Quand il a été question de mettre le break au JO, à aucun moment il y a eu une problématique sur est-ce qu'on met aussi en para. Donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne en fait.
Ok. Et est-ce que vous avez hâte quand même de commenter les Jeux Olympiques, enfin le breakdance pendant les Jeux Olympiques? Est-ce qu'il y a quand même une certaine hâte, même si vous le disiez, vous regardez pas les JO?
Non, sauf pour le break, évidemment.
Du coup,
est-ce que je vais regarder le foot aux JO? Est-ce que je vais regarder l'athlétisme aux JO? Pourquoi pas? Mais est-ce que je vais regarder le break? Absolument. Là, on est sûr que je serai devant ma télé ou en tout cas ou dans une rédaction pour commenter la discipline. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Moi, la performance sportive en de l'athlétisme, ou, je sais pas, en escrime ou tir à l'arc,
ça vous intéresse pas plus que ça.
Pas plus que ça, non. Désolé. Vraiment, désolé. Mais en break, oui.
C'est quoi les prochaines actualités de Yasmina Benbekaï?
Alors, les prochaines actualités, bah tout à l'heure, à 14h, il y a les membres du jury du battle de break qui seront à mon micro pour raconter un petit peu comment on juge un battle, qui ils sont, parce qu'ils enseignent tous les quatre dans les centres Paris Anime. Donc comment on enseigne le break, à qui, comment ça se passe, est-ce qu'il y a eu des pépites, hein, ça fait pas pour certains 20 ans, 23 ans qu'ils enseignent le break, qu'ils coachent le break, est-ce que parmi leurs années d'apprentissage ils ont réussi ou vu des petites pépites dans le breaking par exemple. Il y en a un, Ibrahim Dembélé, c'est un grand champion du breaking, il a été champion du monde du Battle of the Year, donc je l'aurai tout à l'heure à 14h au micro. Sinon, j'ai toujours mes apprentissages de radio avec la fac Paris 8. Ils sont en master média culture de langue. J'ai aussi il y a le championnat de France qui arrive bientôt. Enfin, il s'en passe des choses. Hein, il s'en passe des choses.
Et où est-ce qu'on peut suivre tout ça? Est-ce que vous avez un réseau social où on peut vous suivre?
Oui, j'ai une page Instagram et un LinkedIn. Yasmina Benbekaï, Benbekaï.
Bah, en tout cas, c'est noté et c'est entendu pour nos auditrices et auditeurs. Merci. Ça nous a fait
avec
plaisir d'avoir été derrière le micro.
Courage à vous.
Merci beaucoup. C'est vrai qu'il continue à faire froid. Et bienvenue sur Mon Paris FM, toujours dans le cadre de l'événement Paris s'amuse et fête les Jeux, avec moi Mokhtar Messaouden, capitaine de l'équipe de basket fauteuil avec CAPSA. CAPSA qui est l'association fondée par Riyad Salem. Comment ça va, Mokhtar?
Ça va, très bien, merci. Merci pour l'invitation.
Bah, merci à vous. On est là, il fait un peu froid. On est en plein stade. Mokhtar, racontez-nous déjà, vous, comment vous êtes. C'est quoi? Vous êtes porteur d'un handicap? Quel est l'handicap que vous portez et comment c'est arrivé? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, j'ai un handicap poliomyélite depuis l'âge de 4 mois de naissance. À l'âge de 6 mois, je l'ai eu en Algérie. À l'âge de 6 mois, je suis venu ici en France pour les soins. Donc voilà. Et au départ, j'étais avec des béquilles, avec une prothèse complète. Et tout le monde disait que tu ne pourras pas marcher. Tous les médecins me disaient que tu ne pourras pas marcher, tu ne pourras pas faire du sport. Et en voyant mes frères faire du volley, du basket, je me suis dit pourquoi pas moi. Et en cachette de mes parents, j'ai enlevé la prothèse, j'essayais de marcher. Je tombais tout le temps, une fois, deux fois, trois fois. Et le jour que j'ai fait les trois premiers pas sans la prothèse, j'étais très content. Et c'est là que ça m'a donné la volonté de continuer. Et aujourd'hui, je n'ai plus de prothèse, je n'ai plus de béquille, je marche de boîte, c'est normal. Mais voilà, c'est avec la volonté, quoi.
Oh, vous êtes vraiment la définition du mot résilience. Et comment vous tombez justement dans le basket? Comment ça se passe? Comment vous découvrez le basket? Et comment vous découvrez ensuite le basket fauteuil surtout?
Alors, depuis mon enfance, je faisais de la natation. Et un jour, sur le chemin ici à Paris, exactement à Mairie de Clichy, en marchant, il y a une personne qui me voyait marcher et elle m'a dit « Voilà, on veut créer un club de basket fauteuil. Est-ce que ça vous intéresse ?» Je lui ai dit « Écoutez, moi, je n'ai jamais utilisé un fauteuil roulant. Je vais voir, je vais essayer, pourquoi pas. » Alors, je faisais que la natation. En essayant une sensi, petit entraînement, j'ai adoré, j'ai aimé. C'était très très dur pour moi. Je pouvais même pas dribbler le ballon en même temps rouler avec le fauteuil. Mais je me suis dit, c'est le travail qui paye toujours. Donc j'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ainsi de suite. Je faisais des entraînements. Avec cette équipe, au lieu de faire deux entraînements, je faisais quatre entraînements avec une autre équipe. Et il y a Riyad Salem que j'ai joué contre lui une fois et il m'a dit « Toi, t'es trop grand, c'est bien de venir à CAPSA. » Et je rejoins l'équipe de CAPSA depuis 2013 à aujourd'hui. On est en première division et je suis leur capitaine d'équipe.
Et comment ça se passe justement avec CAPSA et comment ça se passe le haut niveau? Parce que la première division, ça reste du haut niveau. Surtout en fait, ce qui est particulier chez vous, c'est que les autres, ils sont en fauteuil et ils doivent apprendre à dribbler avec le ballon. Vous avez dû apprendre à utiliser un fauteuil et ensuite à jouer. Ça fait double handicap. Comment aujourd'hui ça se passe en tout cas?
Aujourd'hui, quelqu'un qui me voit, il va jamais se dire que j'ai appris le basket à l'âge de 27 ans, 28 ans. Avec les entraînements, comme j'ai dit, les entraînements, la volonté, on est tous égaux, on est tous pareils. Il n'y a pas de différence, on est tous le même fauteuil, on est tous au même niveau. Il n'y a pas de tel joueur est plus fort que l'autre joueur. Même si aujourd'hui je suis marqueur d'équipe, de l'équipe, je suis comme les autres.
Ok. Et il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent. Qu'est-ce que ça représente pour Mokhtar Messaoudaine, les Jeux Paralympiques?
C'est une fierté pour, en premier, je vais dire pour Paris, parce qu'on a tout fait, on va dire, toutes les personnes qui ont participé à la campagne, ils sont très contents. Fier de prendre des couleurs aussi de CAPSA parce qu'ils ont beaucoup participé à ces événements-là. Et aujourd'hui, on habite à Paris, les Jeux à côté de nous. On a vraiment envie, moi perso, j'ai très envie que ça réussisse pour la ville en premier et le deuxième pour l'handicap en général.
Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on en fait moins avec les Jeux paralympiques qu'olympiques? Est-ce que vous trouvez ça dommage finalement?
C'est vrai qu'il y a plus médiatisé sur les Olympiques que les Paralympiques, mais j'ai trouvé que... Je trouve que maintenant, ça commence à parler de plus en plus.
Le handicap, il se met
en avant, en évidence. je trouve que partout, tout le monde est intéressé. Moi, aujourd'hui, je travaille 2 ans dans l'entreprise chez Groupama, au siège. Et tout le monde parle des paralympiques. On parle pas que des olympiques, on parle beaucoup paralympiques.
Et quel conseil vous pourriez donner à un jeune porteur de handicap et qui serait dans une période de doute? Vous l'avez dit, vous avez appris le basket sur le tard. Il y a vos frères aussi qui ont été une inspiration pour vous. Vous les avez vus et vous vous êtes dit pourquoi pas moi aussi. Quel conseil on peut donner à un jeune qui pense que la vie elle s'arrête après le handicap?
Ça c'est faux. C'est faux et il faut se rapprocher des associations, rapprocher de nous, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai 49 ans, je fais toujours du sport, l'entretien et tout ça, c'est très important, et on est là pour les aider. Comme moi, quand je vois un jeune qui n'a... On a aujourd'hui une équipe de filles, la plupart c'est des nouvelles, quand le coach n'est pas là, c'est moi qui les coach le mardi. Franchement, j'essaie de donner toute mon expérience et de les aider de plus en plus, donner des conseils pas que dans le sport, hein, des conseils même à l'extérieur du terrain.
Dans la vie en général.
Dans la vie, voilà.
Vous l'avez dit, on va finir sur cette question, vous l'avez dit, vous avez fait, vous faites, vous en tout cas, du rugby, basket-fauteuil, parce que ma question, elle était justement sur le rugby-fauteuil. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire du rugby-fauteuil ou à faire un autre sport?
On a une équipe de rugby.
Ouais, et Riyad d'ailleurs.
Il y a Riyad et Cédric, ils sont dans l'équipe de France aussi. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on était en Coupe d'Europe pour des clubs, avec l'équipe de CAPSA, basket. Et je parlais avec Riyad, parce que Riyad, il fait du basket aussi. Et je lui ai dit, Riyad, moi j'aimerais bien tester le rugby, juste pour tester, pour voir la sensation, sentir cette sensation qui est différente
du basket.
Et j'ai vraiment envie d'essayer. Moi, je suis quelqu'un que... Dans l'handisport en général, j'aime bien tout essayer.
Okay, bah on vous le souhaite, en tout cas on espère que vous pourrez tout essayer. C'est quoi le mot de la fin pour Mokhtar? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent?
Ce que je conseille tous les jeunes, tous les parents aussi, d'être derrière leurs enfants, même qu'ils sont handicapés, de les encourager à venir aux associations, à venir au club. Parce que c'est avec le sport, je trouve que c'est avec le sport que... Tu oublies cet handicap. Aujourd'hui, quand on fait l'entraînement, quand on joue des matchs, je suis sur un fauteuil roulant, mais j'oublie que je suis handicapé. Et j'aimerais bien passer le mot à ces jeunes-là de venir. N'hésitez pas, on est là pour vous. Et on sera là pour vous.
Bah, le message, il est passé en tout cas. Merci beaucoup pour ce message d'espoir et de résilience. Et vous m'avez dit, là, vous avez un match en plus.
Oui.
Très important.
Très important pour le classement.
On espère que vous gagnerez ce match. Et merci beaucoup, Mokhtar.
Merci à vous et merci à tous.
Merci.
Hors les murs.